dans l'actualité des idées aujourd'hui, philanthropie, la dépendance de l'art. On en parle avec notre invitée, la chercheuse en sciences sociales Anne Monnier, contributrice notamment aux revues politiques ou encore la vie des idées.fr. Elle vient de signer aux presses universitaires de France, nos chers amis américains, une enquête sur la philanthropie internationale à partir d'un réseau d'associations, les American Friends, des acteurs qui lèvent des fonds auprès de riches américains pour des institutions culturelles françaises. Le mécénat est-il aujourd'hui une pratique de plus en plus en vogue, installée même en France? Comment redéfinit-il la frontière publique-privée entre avantages fiscaux et contreparties symboliques? Quelles sont les motivations des donneurs et puis bien sûr celles de nos institutions culturelles qui acceptent ces dons? Bonjour à vous Anne Monnier.
Bonjour.
Vous repartez dans cette enquête d'une actualité qui a marqué le paysage français il y a 20 ans, la grande tempête de 1999. À Versailles, pour replanter, l'opération Adopter un arbre avait été lancée. C'était une bonne opération, ça, pour les donateurs et pour le domaine du château de Versailles.
Oui, c'était une opération qui a été, en tout cas de manière symbolique, très valorisée, puisque à un moment de crise pour le pays, où le domaine de Versailles a perdu une grande partie de ses arbres, ça a été un moyen de dire aussi, tout le monde s'y met, les acteurs publics, les associations, mais aussi des Américains. Et donc, il y a aussi un intérêt des Américains à aider la France, comme on a pu le voir aussi récemment avec Notre-Dame.
Alors, quelle était la contrepartie? Si on prend cet exemple concret de cette adoption.
Alors la contrepartie, c'est un petit peu ce que j'étudie dans ce livre, c'est quelque chose de très complexe puisque ce qui intéresse ces Américains, c'est aussi participer au prestige qui caractérise la culture française. Donc donner à Versailles quand on est une élite américaine, c'est retrouver en donnant du capital économique un certain capital symbolique.
Mmh. Donc ils ont ensuite, une fois qu'ils l'ont acheté, c'est quoi, 150 euros, c'était à peu près ça, le montant de l'appel au don.
Voilà.
Chacun repart avec un arbre à son nom dans le parc du château de Versailles, du domaine de Versailles. Nom qui est resté un certain nombre d'années.
Oui, il est resté, je crois, une bonne dizaine d'années. Alors, je ne sais pas exactement, mais c'est resté un certain nombre d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est que le naming, puisque c'est une pratique, cette idée de donner le nom d'un donateur à un objet, ça s'appelle le naming, le nommage en français. C'est attribué pour un certain temps. Donc, dans le contrat, il y avait cette idée de vous donner une somme, mais pour un certain temps, vous allez garder, cet arbre va garder votre nom.
Et quand on dit adopter, c'est-à-dire qu'ils en devenaient véritablement propriétaire de cet arbre et donc de cette petite parcelle du domaine du château de Versailles.
Voilà, propriétaire temporaire de cet arbre. Après, en ce qui concerne le terrain, je ne connais pas exactement les détails, mais généralement, oui, effectivement, cet arbre est leur propriété.
Oui, c'est intéressant dans cette redéfinition qui se joue à travers le mécétin de la frontière publique-privée. On va le voir sur d'autres types d'opérations. 20 ans après, en tout cas, la pratique perdure. Une responsable du château de Versailles évoque, dans l'extrait que vous allez entendre, d'un clip promotionnel, cet appel aux mécènes évoque les contreparties offertes par ce joyau du patrimoine français.
La règle veut que les mécénats fassent toujours l'objet de contreparties. Évidemment, le château de Versailles a à cœur d'offrir à ses mécènes les contreparties qui vont lui permettre de lui-même avoir un retour sur le mécénat qu'il vient de faire, soit en offrant une carte d'accès à leurs salariés, soit en permettant à des enfants qui n'auraient pas la chance de partir en vacances de venir passer une journée dans les jardins du château de Versailles, ou bien d'organiser un dîner pour leurs clients et de partager avec nous ce lieu qui est ouvert au monde entier et qui reçoit 7,5 millions de visiteurs par an, je vous le rappelle.
Voilà, il y a eu un mariage, celui de Carlos Ghosn, justement, dans le château de Versailles. Cette vidéo, ce clip promotionnel, il est réalisé en direction de qui? De quel public? Qui est ciblé?
En fait, le château de Versailles a des donateurs très divers, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les entreprises, donc il y a l'idée qu'il peut y avoir aussi des réceptions organisées au sein du château, il y a ensuite les petits dons, qui sont les particuliers qui donnent notamment aux Amis de Versailles. Et puis ensuite, il y a les grands donateurs. Et c'est vraiment ce que j'ai étudié dans mon livre, c'est les grandes fortunes qui vont donner à Versailles et qui vont pouvoir organiser au sein des institutions culturelles des événements extrêmement prestigieux.
Alors les Amis américains, pour reprendre le titre de votre livre enquête, ce ne sont pas directement les donateurs ou les mécènes, ce sont aussi ces intermédiaires, ceux qui font, qui vont provoquer la levée de fonds, chercher les mécènes et faire la connexion entre les Français, les acteurs français, les institutions et les grands donateurs américains.
Oui, absolument. En fait, c'était la thèse principale de mon livre. C'est cette idée que dans la relation philanthropique entre des donateurs américains et des récipiendaires français que sont les institutions culturelles, il y a des intermédiaires et ces intermédiaires sont les professionnels du mécénat qui travaillent pour ces American Friends et qui vont du coup faire un travail à la fois diplomatique entre la France et les États-Unis, mais aussi un travail d'intermédiation entre le monde culturel et le monde économique. Donc il y a vraiment cette idée que cette relation philanthropique est une relation médiée.
Et ces intermédiaires que vous avez rencontrés, puisque vous avez vous-même travaillé dans ce réseau-là, ces intermédiaires, là encore, c'est très hiérarchisé, l'organisation de cette sorte de plateforme. Et beaucoup ont le sentiment de ne pas trouver du sens à ce qu'ils font. Hein.
Oui, absolument. Alors j'ai eu la chance, en fait, de mener mon enquête pendant 3 ans aux États-Unis en travaillant comme bénévole au sein de certaines de ces associations d'amis américains. Et donc, j'ai eu l'occasion d'observer leur travail quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, il faut le dire, lever des fonds aux États-Unis, c'est énormément de travail. Donc, c'est des professionnels qui sont très engagés, qui travaillent énormément. Pour des levées de fonds qui sont quand même, il faut le dire, assez modestes. Et puis, d'autre part, au sein même de ces associations, il y a des hiérarchisations entre ces professionnels pour, on va dire, ceux qui vont faire le sale boulot, la logistique, l'organisation, tout ce qui est difficile, compliqué, et puis tout ce qui vont faire le travail un peu plus stratégique, un peu plus, on va dire, glamour, entre guillemets, au sein de ce travail de levée de fonds.
Alors ces grands mécènes américains, ils sont pour la plupart assez cultivés, très francophiles, vieillissants, appartenant assurément à l'élite sociale et culturelle. Ça, c'est un profil type héritier de la finance, de l'entreprise ou de la diplomatie. Qu'est-ce qui justifie leurs gestes philanthropiques? Quelle motivation derrière cette mobilisation? Vous avez trouvé plusieurs raisons, et notamment la raison économique, on peut peut-être l'évoquer, et puis la raison politique.
Alors en fait, la question des motivations est une question qui est extrêmement complexe pour moi. La première, et souvent on la passe un peu en silence, c'est la question fiscale aussi, parce qu'il faut savoir que ces associations permettent aux Américains d'obtenir des déductions fiscales aux États-Unis. Mais ça n'explique pas pourquoi quelqu'un va donner à l'Opéra de Paris ou à Versailles plutôt qu'au Metropolitan Museum. Donc c'est vraiment une raison qu'il faut un peu laisser de côté. Sinon, une autre grande raison qui pour moi était très importante, c'est la question du capital symbolique. C'est-à-dire que c'est un moyen pour ces Américains d'obtenir en contrepartie de leur capital économique du capital symbolique. Voilà. Et ensuite, il y a tout un ensemble de raisons, on va dire, plus personnelles, plus individuelles et qui sont pas exclusives les unes des autres. C'est premièrement l'intérêt pour la France. Il faut pas le cacher, il y a quand même un intérêt pour la culture française. Deuxièmement, il y a parfois un souhait d'ascension sociale, donc passer par la philanthropie française pour monter socialement aux États-Unis, c'est un moyen particulièrement efficace, étant donné le prestige de la culture française auprès des élites américaines. Et ensuite, il y a aussi des objectifs professionnels. Par exemple, certains qui travaillaient dans l'immobilier, c'est l'occasion de rencontrer de riches clients. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'objectif politique, puisque certains de ces amis américains, quand ils donnent à des grandes institutions françaises, sont en contrepartie invités à dîner à l'Élysée, à Matignon, et vont donc avoir un accès privilégié aux élites politiques françaises.
Vous en parlez comme d'une contrepartie évidente et normale et naturelle.
C'est une contrepartie informelle, c'est-à-dire que c'est écrit nulle part, mais ils savent qu'en donnant à Versailles ou au Louvre, ils vont avoir des événements prestigieux. Et comme les élites françaises sont réputées difficiles d'accès, ces associations vont travailler leur réseau pour ouvrir justement l'accès à ces élites, à des élites américaines.
Oui, vous dites que c'est un geste même souvent de Matignon ou de l'Élysée qui ne coûte pas tellement cher. C'est-à-dire que l'État, nos gouvernants se prêtent assez facilement à ce jeu-là. On va en venir à ce que peut être la contrepartie pour les acteurs culturels français. Mais là, pourquoi ouvrir les portes de ces palais à ces mécènes américains?
Oui, en fait, j'explique un petit peu dans mon livre que l'État encourage en fait cette philanthropie de différentes manières, à la fois par un soutien logistique, c'est ce que j'appelle un soutien logistique à la fois aux États-Unis, donc par les diplomates qui vont ouvrir le consulat, le service culturel et permettre l'organisation d'événements. En France, également l'aspect logistique par l'ouverture des palais, de l'Assemblée nationale, des grands édifices et grands bâtiments, mais également par, on va dire, une aide en mode de légitimation, puisque l'État français va offrir à ses mécènes américains des décorations qui vont permettre en fait de légitimer ces mécènes et de leur offrir la reconnaissance qu'ils demandent.
Les Français ou la France, est-ce qu'elle est en train de devenir une terre d'investissement ou en tout cas une destination importante pour ces mécènes américains? Vous dites que les Américains jugent souvent aussi les Français un peu ingrats, qu'ils ne rendent pas suffisamment de compte, qu'il y a une absence de transparence sur l'usage des dons et ce à quoi ils sont par la suite affectés. Je vous propose d'écouter les mots de l'économiste Julia Caget, auteure du prix de la démocratie, paru chez Fayard.
Le problème des philanthropes aujourd'hui, c'est que contrairement aux entreprises et contrairement aux politiques, ils ne sont responsables devant personne. Si vous êtes un politique, vous êtes élu, vous êtes responsable devant les citoyens, et si finalement vous gaspillez l'argent public, vous allez perdre à la prochaine élection. Si vous êtes une entreprise et que vous mettez sur le marché des biens, des services qui ne satisfont absolument personne, vous allez être puni par les consommateurs qui vont arrêter d'acheter vos biens et vos services. Si vous êtes un philanthrope, non seulement vous n'êtes responsable devant personne, c'est-à-dire vous dépensez votre argent comme vous le voulez, et en plus vous êtes subventionné en partie par l'État, vous faites vraiment ce que vous voulez. À chaque fois que des gens vont vous voir, finalement, c'est pas pour vous dire alors on va réfléchir ensemble à l'utilisation optimale de votre argent. En général, c'est pour vous demander de l'argent. C'est-à-dire, si vous prenez des grosses fondations comme la Fondation Gates, ils font aussi énormément de dons aux petites fondations. Donc finalement, à chaque fois qu'ils ont des gens qui viennent les voir, c'est pour leur demander quelque chose. Donc en fait, on a créé une espèce d'organe assez unique qui est caractérisé par un déficit de responsabilité. C'est-à-dire, c'est ni le politique qui est responsable face aux citoyens, ni les entreprises qui sont responsables à travers le mécanisme de marché. C'est juste des philanthropes qui, et là pour le coup, c'est vraiment essentiel aux États-Unis. Dans certains secteurs d'activité, ils ont pris une place plus importante que l'État.
Sur cette question de la transparence, des comptes à rendre par rapport à cette philanthropie, dans un moment où il y a aussi une suspicion qui règne et pèse sur ces mécènes. On parle de philanthropie washing, comme on parlait hier de greenwashing, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut faire passer derrière. Est-ce que vous voyez là encore une différence de culture entre les États-Unis et la France dans la transparence aussi?
Oui, alors... aux États-Unis, en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, la philanthropie est extrêmement développée et elle est tellement développée, elle a tellement d'importance qu'il est difficile de la critiquer puisqu'il y a une dépendance très très importante. En France, je pense que c'est différent puisqu'elle est en développement et que son émergence et son développement actuel s'accompagnent d'une critique d'un manque de transparence, mais critique aussi nombreuse sur d'autres thèmes. Et je pense que la chance qu'on a en France, c'est justement d'avoir cette possibilité de la critiquer. Il y avait l'auteur Anand Giridharadas qui a travaillé qui a écrit un livre Winners Take All sur la critique de la philanthropie. Il explique qu'il a été très heureux des critiques qui ont émergé au moment de Notre-Dame, puisqu'il s'est dit, en France, on peut critiquer la philanthropie et c'est très healthy. Pour revenir sur la question de la transparence.
C'est très sain de pouvoir la critiquer.
Exactement. Sur la question de la transparence, moi j'ai pu voir au sein des amis américains une certaine critique de la manière dont les choses étaient faites en France. Et notamment, j'ai deux exemples que je peux évoquer. L'un, c'était un mécène qui avait fait un don pour établir la climatisation au sein d'un musée. Et à un moment d'un gala, tout le monde crevait de chaud et il est allé voir les responsables en disant « bah j'ai quand même payé pour la climatisation, pourquoi est-ce qu'on crève de chaud ?» Et le responsable lui a dit « désolé, l'argent était utilisé pour autre chose ». Et il était furieux. Et un autre exemple que j'ai, c'est que certains m'expliquaient que parfois il y avait des donations qui étaient faites sur certains projets et ils n'avaient pas des retours exacts sur la manière dont cet argent était utilisé. Mais il faut dire quand même que de plus en plus, il y a un reporting qui est mis en place et les institutions doivent rendre compte très précisément de la manière dont l'argent est utilisé presque centime par centime auprès des Américains.
Vous évoquiez à l'instant Notre-Dame de Paris, l'incendie et l'élan de solidarité des riches familles françaises qui ont à ce moment-là proposé de donner pour la réparation de la cathédrale. Ce qui a fait du bruit, ce qui a provoqué de l'exaspération, c'est la question de la défiscalisation de ces dons. On va écouter sur ce point, si vous le voulez bien, la voix d'Antoine Arnaud. Retour sur ce don de 200 millions d'euros promis par LVMH au lendemain de l'incendie, promesse formulée par le fils Arnaud.
Le groupe LVMH, dont votre père est président directeur général, va faire un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction. C'est une initiative très forte, une initiative rarissime.
Rarissime effectivement par son ampleur, mais je dois dire que les images que nous avons vues hier soir étaient tellement saisissantes et tellement catastrophiques que on a pensé qu'un geste fort et symbolique était très important.
Alors par ailleurs, le groupe LVMH annonce mettre toutes ses équipes créatives, architecturales, financières à disposition pour la reconstruction et la collecte de fonds. Expliquez-nous comment ça peut se passer.
Alors oui, c'est une idée que nous avons eue hier soir avec mon père et ma famille. Évidemment, l'argent, c'est une chose importante et je crois que le montant est suffisamment significatif pour qu'il fasse œuvre dans cette reconstruction. Mais au-delà de ça, déjà, je pense qu'il y aura de nombreux dons, pas uniquement en France, mais à travers le monde, et que l'argent ne sera pas ce qui manquera. Ce qui manquera, ce sera sans doute quelque chose d'un peu plus intangible, c'est-à-dire des gens extrêmement compétents, de bonnes idées. Et dans notre groupe, nous avons certains savoir-faire, en particulier créatifs, architecturaux, financiers, évidemment aussi pour la conservation d'œuvres d'art à travers la Fondation Louis Vuitton. Donc nous mettons à disposition des parties prenantes de cette reconstruction tous nos salariés qui leur sembleraient pouvoir aider à cette reconstruction.
Voilà, de l'argent et du savoir-faire, voilà ce que met en avant Antoine Arnaud dans cette situation.
Oui. Absolument. En fait, il y a eu un élan international, à vrai dire, pour la reconstruction de Notre-Dame au lendemain de l'incendie. Élan de générosité qui a été très critiqué en France, en disant il est facile de mobiliser quand Notre-Dame brûle, mais par contre, il y a énormément de pauvreté. Et les millions sont là. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas pour lutter contre la pauvreté? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le gouvernement a décidé de réduire les déductions fiscales pour les entreprises au-delà d'un certain montant, donc pour la loi du budget 2020 qui va être votée prochainement.
Mais ce que vous étudiez aussi, Anne Monnier, c'est la question de savoir si une générosité pure, exempte de toute arrière-pensée, existe et est possible. Et votre réponse, elle est quand même assez claire à travers cette enquête. Non, il y a forcément des contreparties attendues par les donateurs, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, avec la défiscalisation aux États-Unis comme en France d'ailleurs.
Oui, alors en fait, moi, de toute façon, je reprends l'analyse maussienne qui conçoit la générosité comme un don contre don. Mais je pense que la question qui se pose actuellement, c'est la question de la nature du contre-don. C'est-à-dire que généralement, la philanthropie, c'est un don en capital économique, un contre-don en capital symbolique qui finalement coûte relativement peu à l'État et aux institutions culturelles. Le problème qui se pose actuellement, c'est que le contre-don devient de plus en plus important et qu'il n'est plus symbolique, mais également en termes de pouvoir. C'est-à-dire que les mécènes cherchent à avoir un rôle de plus important au sein des institutions culturelles françaises et se posent notamment la question de est-ce qu'ils vont pas devenir de plus en plus interventionnistes, notamment sur les questions culturelles. Et là, je pense qu'il y a une ligne rouge à tracer et qui est, on va dire, en réflexion au sein du monde culturel français actuellement.
Est-ce que vous diriez que les institutions culturelles françaises sont presque plus méfiantes encore que nos représentants, que l'État, qui a probablement aussi intérêt à pouvoir se décharger d'une partie des subventions qu'il donnait jusqu'alors à certaines institutions? On sait que l'État se désengage dans ce mouvement parallèle, alors que le mécénat progresse en France depuis quelques années.
Oui, en fait, le souci des institutions culturelles, c'est qu'elles sont de plus en plus dépendantes du mécénat. Même si, en fait, la part du mécénat dans le budget total des institutions est relativement faible, puisque une institution comme le Louvre, c'est autour de 250-300 millions d'euros, que la part du mécénat est autour de 20 millions et que la part des American Friends est autour de 1 ou 2 millions. Donc malgré tout, en termes de chiffres, c'est pas si important, mais c'est une importance croissante et le fait est que cette dépendance vis-à-vis du mécénat crée une relation de domination qui oblige les institutions à faire des sacrifices et des compromis qu'elles cherchent à ne pas faire, mais peut-être qu'elles vont se retrouver obligées de les faire, notamment dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel.
Là, par exemple, il y a une grande exposition Léonard de Vinci qui vient d'ouvrir au musée du Louvre. On sait quelle est la part des mécènes dans cette installation.
Malheureusement, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle a été financée. Par contre, je sais que Bill Gates a prêté une œuvre pour l'exposition Léonard de Vinci.
Voilà, là, avec peut-être la rétribution à travers ce prêt symbolique d'avoir son nom présent dans cette exposition. Bah, puisqu'on est au Louvre, on va y rester avec un autre exemple qui a fait du bruit ces derniers temps, c'est l'affaire Sackler, du nom de l'embarrassant mécène accusé d'alimenter la crise meurtrière des opiacés aux États-Unis. Sackler qui avait aussi donné son nom à une aile du Louvre.
Au Metropolitan, à New York, où ils ont financé l'immense temple de Dendur. Au Guggenheim, au Louvre également. À Londres, Washington, Tel Aviv et Pékin, les Sackler apposent leur nom sur des bibliothèques, des universités et même un astéroïde. À des années-lumière du produit qui a fait leur fortune. Une image respectable qui vole en éclats aujourd'hui. Des activistes multiplient les opérations coup de poing.
Les Sackler ont menti. Des milliers sont morts. Les Sackler savaient que leur pilule tuerait.
Selon eux, les prétendus philanthropes sont des empoisonneurs.
Voilà, des militants présents aussi devant le Louvre cette année, avec notamment l'artiste Nan Goldin, qui s'était associé à ce mouvement. Qu'est-ce qu'on sait? Le Louvre a réagi à cette affaire, à ce scandale des opiacés?
Oui, absolument, mais il a réagi de manière un petit peu vague, pas très claire. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, ils avaient nommé des salles au nom de la famille, mais que le nommage était terminé, puisque la période de temps était écoulée, donc il n'y avait plus de salles au nom des Sackler. Mais par contre, les petites plaques en dessous des œuvres avec le nom des donateurs continuaient à évoquer le nom des Sackler. Donc, ils ont décidé de retirer le nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, la famille Sackler a participé de manière très importante à la crise des opioïdes avec leur entreprise Purdue Pharma. Et c'est quand même la crise des opioïdes aux États-Unis, c'est 400 000 morts.
Donc, mais ça, on le savait. C'était possible de le savoir longtemps à l'avance. Ou est-ce que ça pose aussi, plus globalement, pour ces mécènes, la question de la provenance des fonds ?
C'est une question qui se pose de manière de plus en plus importante, c'est-à-dire que jusqu'à un certain temps, on se disait « bon bah c'est de l'argent et c'est chouette », mais de plus en plus, on se pose la question de la provenance des dons et notamment refuser des dons qui sont moins éthiques. On peut évoquer par exemple le remboursement d'un don de Lafarge au musée de Cluny, qui est un don de 200 000 euros et qui a été refusé et remboursé car il y avait une suspicion d'implication de Lafarge en Syrie et de le fait qu'ils auraient soudoyé l'État islamique, donc ça a été reversé. Donc je pense que la question de l'éthique est de plus en plus importante et donc se pose la question de peut-on accepter tous les dons.
Qui sont les clients français de ces mécènes? Vous l'évoquiez, le Louvre, avec le Louvre à Abu Dhabi aussi, hein, l'Opéra de Paris, le Châtelet, le Centre Pompidou, les amis sont américains mais ils peuvent aussi être chinois ou japonais. Il y a une véritable géopolitique aussi du mécénat qui se joue ici dans nos institutions culturelles. Vous dites que globalement les acteurs culturels français restent quand même assez méfiants quand ils n'assimilent pas cette démarche de mécénat à de la mendicité, quand ils ne l'interprètent pas du bout des doigts. Pour conclure, vous diriez, Anne Monnier, que la France doit encore faire un effort, c'est-à-dire que le mécénat, la philanthropie, peut quand même être porteuse de projets intéressants et remplir des vides laissés vacants par un désengagement de l'État. Ou est-ce qu'il faut rester très prudent avec cette culture qui n'est pas la nôtre ?
Je pense qu'il faut créer une réflexion autour du rôle de la philanthropie pour deux raisons. D'abord, conserver cet esprit critique, être capable de critiquer la philanthropie, mais aussi voir les aspects positifs que ça le peut avoir, notamment en termes de flexibilité par rapport à l'État, mais aussi dans un monde globalisé où la philanthropie se développe. Je pense qu'il faut continuer cette réflexion et surtout ne pas adopter de position affirmée, mais vraiment réfléchir pour avoir une position de plus en plus nuancée sur le rôle que doit avoir la philanthropie dans une démocratie.
Parce qu'elle redéfinit déjà la frontière publique-privée en France aussi.
Exactement.
Merci beaucoup à vous, Nahad Monnier, d'avoir été avec nous. Nos chers amis américains, une enquête sur la philanthropie transnationale. Votre essai enquête vient de paraître aux presses universitaires de France. France Culture, il est 13h23.
France Culture, la grande table, Olivia Jasbert.
Et c'est le rendez-vous de la médiatrice aujourd'hui, exceptionnellement un mercredi. Bonjour à vous, Emmanuel Davier.
Bonjour Olivia.
Et bonjour à Vincent Lemaire, délégué au programme de France Culture, qui répond aujourd'hui à vos questions. Bonjour Vincent.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vincent Lemaire, bonjour. Première question d'un auditeur, Eric. Il écrit « Le 14 octobre dernier, le temps du débat a été consacré au mouvement de désobéissance civile et plus particulièrement à Extinction Rebellion. Les représentants de ce mouvement sont intervenus anonymement. Permettez-moi de vous dire que c'est inadmissible et que pour moi, cela suffit à disqualifier totalement leurs propos. Quand on vient défendre une cause sur une radio publique, on n'avance pas masqué et je m'étonne que les journalistes accèdent à ces demandes d'anonymat. » Vincent Lemaire, pourquoi acceptez-vous d'anonymiser ces invités ?
Alors cet auditeur, Eric, il pose évidemment une vraie question, une question qui fait débat dans les couloirs de France Culture, comme dans, j'imagine, beaucoup d'autres médias. Il faut rappeler que la pratique d'anonymiser des témoignages, des sources, est une pratique journalistique ancienne et très répandue. C'est souvent indispensable, hein, dans certains cas. Je témoigne pour notre antenne d'une série de documentaires consacrés à des témoignages de victimes ou d'auteurs de crimes et de délits, des témoignages enregistrés dans le milieu pénitentiaire, en milieu carcéral. Là, évidemment, les témoins étaient anonymes. Ou très récemment, il y a quelques jours, dans une série LSD, où des policiers étaient interrogés sur leur rapport à la violence qu'ils exerçaient, la violence qu'ils subissaient. Là aussi, ils témoignaient de manière anonyme. Il y a beaucoup de milieux professionnels, beaucoup de secteurs de la société dans lesquels la prise de parole publique, elle n'est pas libre. Et ça serait une faute pour les médias de ne pas chercher à contourner ces obstacles. Alors, le cas que soulève Eric, il est un peu différent. Il s'agit de l'expression anonyme de militants. Donc là, nous ne sommes pas exactement dans le cadre de la problématique du témoignage. Il cite des mouvements, Extinction Rebellion ou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où se sont déployés des mouvements très horizontaux, où il n'y avait pas d'organisation, pas de porte-parole officielle. Et pour le coup, les médias ont été souvent réduits à solliciter des militants qui conditionnent leur prise de parole au fait de respecter leur anonymat. Alors, que faire face à cela ? Pour un média qui doit traiter de cette actualité sociale, ça me paraît indispensable de faire entendre ces prises de parole pour ne pas avoir à se limiter à la parole des experts ou des analystes. Mais la réaction d'Éric, elle est légitime. Cela n'est pas satisfaisant. Chacun peut avoir son avis sur telle ou telle personne qui assume ou refuse de prendre la parole en son nom. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau global, c'est assez inquiétant. La multiplication des prises de parole anonymes, ça ne fait pas de bien au débat public. C'est vrai pour les médias et plus encore pour les réseaux sociaux.
Venons-en maintenant au pluralisme. Sur votre antenne, Guillaume écrit « Je suis régulièrement dérangé par l'orientation idéologique de vos programmes. Tous les journalistes semblent partager une opinion similaire sur un grand nombre de sujets d'actualité. Donald Trump, le populisme, le réchauffement climatique, les sujets dits sociétaux, l'immigration. Des personnes comme Brice Couturier ou Hubert Védrine incarnent les voix les plus droitières que l'on puisse écouter. » Un certain nombre de vos concitoyens ne sont que très faiblement représentés sur votre antenne. L'enfermement idéologique n'est pas le meilleur allié de la vérité. Je me permets de vous suggérer d'incarner de façon plus accomplie l'esprit d'ouverture. Vincent Lemaire, que répondez-vous à cet auditeur ?
Alors Guillaume, il nous pose une vraie bonne question compliquée. Et qui nous
il pose toujours de bonnes questions, voilà, vos auditeurs.
C'est certain. Une question qui nous revient de manière récurrente. Alors il est compliqué de lui répondre sur le fond, parce qu'il me semble difficile de mettre sur le même plan notre traitement éditorial de la notion de populisme, du Brexit, de Donald Trump ou de l'immigration. Et il me semble d'ailleurs difficile d'associer à tous ces sujets-là la question du changement climatique, pour laquelle il existe aujourd'hui un grand consensus scientifique. Alors bon, prenons l'exemple de Donald Trump. Pour tous les médias et pour France Culture, parmi ces médias, il est compliqué d'avoir une analyse mesurée des actions d'un président américain qui pratique la provocation avec une jubilation certaine et avec un certain succès politique. Il est évidemment compliqué d'avoir un traitement mesuré de ses tweets à répétition et de ses actions. Mais peut-être sur la notion de populisme. C'est évidemment une notion qui est très discutée, très disputée même. Et sans doute parfois les journalistes et les producteurs, productrices de France Culture utilisent cette notion comme un mot valise avec beaucoup de raccourcis. Mais il me semble que sur l'antenne de France Culture, nous tenons justement à faire entendre le débat intellectuel autour de cette notion, à laquelle nous avons consacré des forums à la Sorbonne, des semaines d'émissions d'histoire ou de philo, nombre de magazines d'idées comme La Grande Table avec Olivia ici présente, justement pour faire entendre, pour expliquer la diversité des points de vue autour de cette notion de populisme. Alors pour finir, je ne peux pas m'empêcher d'insister sur un point, j'entends les remarques bien sûr de Guillaume et les reproches d'enfermement idéologique qu'il nous adresse, mais cela me fait en même temps sourire quand, dans le même temps, un journal en ligne comme Mediapart nous accuse de faire le lit des idées d'extrême droite. Disons qu'il vaut mieux prendre ça avec le sourire que sans lamenter.
Il y avait une dernière question, mais je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, Emmanuel Davier.
Bon, elle l'abordera la prochaine fois.
Oui, vous la mettez de côté ?
Absolument.
Très bien, je vous remercie mille fois d'avoir tenu la pendule, comme on dit. Merci beaucoup à vous, Vincent Lemaire. Les auditeurs peuvent vous écrire, Emmanuel. Et on se dit rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous de La Médiatrice. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutège-Pérez, à Oriane Delacroix et Sophie-Catherine Gallet, avec l'aide précieuse de Sophie Martin et de François Brius. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Marie-Claire Oumabadi et à la vidéo Jordan Fuentes. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Je vous donne rendez-vous demain avec l'écrivain romancier britannique Jonathan Coe et le géopoliticien, le politiste Bertrand Badie.